BW. Vue d'Allemagne.
C'est clairement un personnage extrêmement important. C'est le voyageur qui est resté le plus longtemps dans la région du Sahel et du Sahara central et qui a ramené toute une série de données absolument extraordinaires pour comprendre cette région à cette époque.
Un personnage extrêmement important, pont entre l'Afrique et l'Europe, et pourtant méconnu du grand public, géographe, historien. L'Allemand Heinrich Barth aurait fêté ses 200 ans ces jours-ci. On se penche sur sa biographie aujourd'hui dans Vue d'Allemagne. Et puis au sommaire aussi dans quelques minutes, un tout autre sujet, la chasse qui séduit en Allemagne alors même que la consommation de viande baisse ces dernières années. On tentera de comprendre pourquoi. Guten Tag, willkommen, bonjour, bienvenue, vous écoutez Vue d'Allemagne, c'est le 9e numéro de l'année 2021. Los geht's, c'est parti. Nous débutons donc cette semaine avec un retour en l'année 1850. Heinrich Barth, géographe et historien allemand, fait partie d'une expédition payée par la couronne britannique, expédition commerciale et scientifique. À l'époque, les autorités anglaises veulent lutter contre la traite des esclaves en intensifiant le commerce. On veut échanger davantage de biens avec l'Afrique, plus que des hommes. Des missionnaires se mettent alors en route, dont Heinrich Barth, né en février 1821. Âgé de 28 ans, géographe, historien, je le disais, il a déjà voyagé dans le nord de l'Afrique. Et c'est notamment pour cela qu'on lui fait confiance et lui demande d'accompagner le dirigeant de l'opération, James Richardson. Parti de Libye, les missionnaires doivent explorer le Sahara et rejoindre le lac Tchad. Mais bientôt, Heinrich Barth va se retrouver à gérer complètement le voyage, comme le raconte aujourd'hui Christophe Marx. Il est professeur d'histoire non européenne à l'université de Duisbourg en Allemagne, spécialisé dans l'histoire de l'Afrique, et il va publier prochainement des lettres d'Heinrich Barth sur lesquelles il travaille depuis plusieurs années.
À l'origine, ce sont trois Européens qui faisaient le voyage. James Richardson, qui était le directeur de l'expédition. Il y avait aussi un géologue allemand, Adolf Overbeck. James Richardson est mort sur le chemin du Sahara. Adolf Overbeck meurt lui aussi soudainement en 1852 des suites de fièvre. Et Heinrich Barth est alors officiellement nommé par le gouvernement britannique comme nouveau directeur. Ce qui était bien sûr preuve d'une très grande confiance pour que lui, étranger, soit chargé de cette expédition. Mais c'est aussi parce que Barth avait toujours été très diligent dans l'envoi des rapports de voyage. Et cela a évidemment beaucoup impressionné le gouvernement britannique, si bien qu'il a estimé « Ok, Heinrich Barth peut le faire, il est capable de le faire ».
Heinrich Barth poursuit donc l'expédition avec succès. Il traverse bientôt les territoires de l'actuelle Libye, le Niger, le Nigeria, le Mali, le Burkina Faso et le Tchad. Partout, il échange avec ceux qu'il rencontre, prend des notes, fait des cartes. Un travail jamais accompli jusque-là.
C'était nouveau. Heinrich Barth était le chercheur le plus instruit sur l'Afrique. Il était géographe. Il était titulaire d'un doctorat en histoire et pouvait donc rendre compte de beaucoup plus de choses sur l'ensemble de la région que les autres chercheurs avant lui. Avant lui, il y avait souvent des officiers britanniques qui étaient bons pour les mesures, mais qui ne connaissaient aucune langue, ne savaient souvent que peu de choses sur l'histoire et ne s'y intéressaient pas particulièrement. Et c'était différent avec Heinrich Barth. C'était un très bon observateur et il était incroyablement assidu. Quelqu'un, un jour, a calculé qu'il écrivait pendant le voyage 33 pages de journal chaque jour. Il a ainsi collecté du matériel incroyable, et dans tous les domaines. Il a fait des recherches sur les langues, sur la géographie. Il notait tout ce qu'il observait sur les plantes et les animaux. Il a décrit la vie des gens, les routes, la façon dont les caravanes étaient organisées, les marchés aussi. Il a également toujours cherché à entrer en contact avec les universitaires locaux. Il s'agissait pour la plupart de musulmans, avec lesquels il s'est ensuite entretenu, et donc il a également reçu de nombreuses informations.
De nombreuses informations qu'Heinrich Barth recueille avec une approche bien particulière vis-à-vis de ce qu'il rencontre. C'est ce que nous explique Camille Lefebvre, historienne spécialisée de l'Afrique et directrice de recherche au Centre national de la recherche scientifique en France.
Ce qui est extrêmement intéressant pour lui, c'est que ses jugements sur les personnes qu'il rencontre ne sont pas exemples de racisme. Le racisme fait partie de la formation intellectuelle d'un homme de cette époque à ce moment-là. Mais il a quand même un très grand intérêt pour les sociétés africaines. Et effectivement, il respecte énormément les lettrés qu'il rencontre. Il respecte la plupart du temps aussi les souverains qu'il rencontre. Mais il s'intéresse et il discute aussi avec des esclaves ou avec des hommes et des femmes ordinaires. Et donc, on a vraiment un accès aussi à eux grâce à lui, parce que notamment, il recueille toujours, par exemple, tous les noms des individus auxquels il demande des informations, ce qui n'est pas le cas de tous les explorateurs de ce type. Et donc, chaque fois qu'il y a une information qui doit être fournie par un interlocuteur ou une interlocutrice africaine, nous avons son nom, nous avons très souvent sa biographie, et donc nous pouvons savoir à qui il a parlé et qui sont ceux qui lui ont donné ces informations. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on est clairement dans un moment qui est un moment d'exploration scientifique avec Barthes, qu'on peut identifier notamment dans ses pratiques de voyage. Par exemple, quand il se déplace la plupart du temps seul, il n'a pas d'escorte armée, il rentre dans des caravanes qui sont des caravanes africaines qui existent en dehors de lui, et donc il a une manière de voyager qui n'est pas une manière de s'imposer comme plus tard des expéditions coloniales, mais qui est vraiment une manière de rentrer dans des circulations africaines.
Ainsi, Heinrich Barthes multiplie les entretiens, collecte et recopie, manuscrits, généalogies, il dessine des cartes, perce le secret du fleuve Niger. Les Européens ne savaient pas alors si c'était un fleuve indépendant ou un affluent du Nil. La connaissance de la géographie et de l'histoire du continent progresse, raconte Christoph Marx.
C'était très important, parce qu'en Allemagne aussi, il y avait l'idée que les Africains n'ont pas d'histoire du tout. On pensait que ce ne sont toujours que des querelles tribales, il n'y a pas eu de développement historique. Et Barthes a pu montrer au contraire qu'il y avait bien eu un développement historique. Il l'a appris non seulement lors d'entretiens avec des universitaires, mais il a aussi trouvé des documents en Afrique, c'est-à-dire des récits historiques qu'il a copiés et qui ont ensuite été publiés en traduction ou qui ont fait partie de son récit de voyage. Et puis, il a joué un très grand rôle dans la recherche linguistique. C'était un linguiste très doué. Il pouvait parler, je dirais, une dizaine de langues différentes, dont l'arabe, différents dialectes et 4 langues africaines. Il a rassemblé le vocabulaire de plus de 30 langues différentes et il était si bon qu'il pouvait aussi montrer les liens entre ces langues, de sorte qu'il est aussi l'un des fondateurs de l'étude des langues africaines.
En septembre 1953, Heinrich Barthes atteint Tombouctou. Il sera le premier Européen à le faire et à en revenir vivant en Europe. Mais son arrivée n'est pas simple. Heinrich Barthes est un chrétien, pas vraiment bienvenu, comme explique Camille Lefebvre.
Son séjour à Tombouctou a été extrêmement compliqué parce qu'il s'est retrouvé pris dans un conflit local entre deux branches de familles lettrées de la région qui sont entrées en conflit autour de sa présence et autour du fait de est-ce qu'on pouvait accueillir un chrétien et le laisser voyager en toute liberté dans la ville ou est-ce qu'au contraire il était un danger et donc il fallait empêcher son séjour. Et donc il a été protégé par certains de ses lettrés et d'autres voulaient l'attaquer. Donc il est resté très longtemps parce qu'il a été à ce moment-là contraint dans ses déplacements et empêché de voyager comme il l'aurait voulu. Et en même temps, ce qui est passionnant, c'est que ça a donné lieu à une grande controverse entre les lettrés musulmans de la région qui se sont écrits des lettres pour réfléchir d'un point de vue théologique et d'un point de vue à la fois intellectuel et religieux sur est-ce qu'il était possible ou pas de l'accueillir. Et aujourd'hui, nous avons ces lettres et plusieurs chercheurs, notamment Mohamed Diagayeté au Mali, sont en train d'éditer et de rendre accessibles toutes ces lettres qui ont été écrites en arabe et qui permettent de comprendre cette controverse savante autour de la présence d'un Européen en Afrique de l'Ouest.
Heinrich Barthes est pris dans le conflit de pouvoir sur place et restera près de 10 mois à Tombouctou. Il passera par Kao, encore sur la route du retour vers l'Europe dès 1954. Après son retour en 1955, Heinrich Barthes publiera 5 tomes en anglais et en allemand sur son voyage, 7000 pages au total, écrites en 3 ans. un travail très dense, ce qui explique aussi pourquoi les livres resteront réservés à une élite et n'auront pas un énorme succès populaire. Heinrich Barth assistera ensuite à la montée des nationalismes et du colonialisme, un mouvement auquel il refusera d'adhérer complètement. Il était un scientifique, pas un homme politique. Heinrich Barth meurt en 1865 à Berlin, à la fin de l'époque de ce que les historiens appellent parfois le deuxième âge des découvertes, des explorations scientifiques, juste avant un autre temps, celui de l'impérialisme et des empires coloniaux. Aujourd'hui, son travail est encore une mine d'informations pour les chercheurs européens et africains, comme le raconte Camille Lefebvre.
Il y a eu notamment un grand colloque qui a eu lieu il y a une quinzaine d'années à Tombouctou, et qui était organisé à la fois par des chercheurs allemands, notamment l'un des descendants d'Heinrich Barth, Harim von Oppen, et aussi par des chercheurs maliens, mais il y avait des chercheurs venus de toute l'Europe et de toute l'Afrique pour travailler sur tout ce que Heinrich Barth avait légué sur le continent et toutes les informations qu'on avait obtenues grâce à lui. Et donc, une discussion s'est engagée au cours de ce colloque qui a donné lieu ensuite à une publication importante autour d'Heinrich Barth, vu aussi bien depuis l'Afrique que depuis l'Europe. Donc, c'est une figure qui est aujourd'hui, d'un côté comme de l'autre, reconnue comme une figure importante dans l'histoire de l'Afrique.
Et si vous voulez en savoir davantage sur Heinrich Barth, il y a notamment le livre en lien avec la conférence dont parlait Camille Lefebvre, dirigé par le professeur d'origine malienne Mahamadou Diawara. On vous met les références sur la page du podcast de cette émission. Vue d'Allemagne, la suite avec ces chiffres maintenant peu réjouissants, et c'est peu dire. 1606 actes de violence ont été recensés en 2020 contre les réfugiés en Allemagne, plus de 4 par jour. Les statistiques incluent les insultes, les incitations à la violence, les dommages aux biens et les actes de violence directe. Ainsi, plus de 200 personnes ont été blessées l'an dernier. Autre chiffre qui ressort de ces rapports du ministère fédéral de l'Intérieur, celui du nombre de manifestations néo-nazies en hausse par rapport à 2019. Malgré les interdictions temporaires de manifester face à la pandémie de coronavirus, on a dénombré l'an dernier 124 manifestations néo-nazies. Seul réjouissant, ce nombre de participants total à ces manifestations est lui en baisse en 2020 par rapport à 2019. Sag du Künstlerchen, keine Sorgen, das ändert sich. Das Pheromon sprengt deine Tarnung. Mein Loco fetzt die letzte Warnung. Schimmering, groupe de rock allemand avec Jäger, le chasseur, chanson sortie l'an dernier. La chasse, justement au sens premier du terme, on s'y penche aujourd'hui parce que le nombre de chasseurs ne cesse d'augmenter en Allemagne. 19 000 nouvelles demandes de permis de chasse ont été faites dans le pays l'an dernier. Des permis pas tous accordés puisqu'ils sont assortis d'examens obligatoires pour pouvoir se servir d'une arme et aller dans les champs ou en forêt pour tuer un cerf ou un renard et le manger. Mais la pratique est en hausse en Allemagne. On comptait fin 2020 près de 400 000 chasseurs, un quart de plus qu'il y a 30 ans. Pour donner une idée et comparer avec un pays voisin, la France, cela reste peu. On compte en France environ 1 million de chasseurs, plus du double donc. Mais là-bas, le chiffre a diminué de moitié en 40 ans. Alors pourquoi ce retour à la chasse en Allemagne, dans un pays où la consommation de viande a pourtant tendance à baisser ? Eh bien, une explication se trouve dans l'âge des pratiquants. Certains jeunes se mettent à cette activité. À 28 ans, par exemple, Shana Rice, qui vit dans l'ouest, près de Francfort, s'est mise à la chasse il y a 5 ans. Fusil à l'épaule, dreadlocks sur la tête et piercing au nez, cette ancienne végétarienne raconte à l'agence France Presse pourquoi elle chasse désormais des animaux.
Il est important pour moi de savoir d'où vient la viande que je mange, que je puisse retracer toutes les étapes, que j'ai vu l'animal vivant, que consciemment je ne mange pas trop, mais que je sache d'où ce que je mange vient.
Et savoir d'où vient ce qu'on mange, manger local, des mots qu'on entend de plus en plus partout en Allemagne, d'autant plus encore à la suite des scandales de travailleurs mal payés et mal protégés face à la Covid-19 dans les abattoirs. On en avait parlé l'an dernier dans ce magazine. La pandémie a d'ailleurs joué un rôle pour les nouveaux entrants dans la chasse, assure Shanna Reis.
Je pense que la Covid nous a définitivement rapprochés de la nature parce que c'est le dernier endroit où nous pouvions aller. Je pense aussi que beaucoup de gens ont mieux compris l'importance du local, de la valeur des aliments que nous produisons ici dans la région et qu'ils ont donc aussi plus d'intérêt pour la chasse, pour la consommation de gibier et peut-être l'envie de passer eux-mêmes à un permis de chasse pour savoir d'où ce qu'on mange vient.
Et des explications que confirme Anna Martinson qui répond aux questions des journalistes à la association de chasse allemande.
Nous voyons qu'il y a de plus en plus d'intérêt pour la chasse. La plupart des gens qui passent leur permis disent le faire parce qu'ils s'intéressent à la nature, leur environnement immédiat et veulent protéger tout cela. La protection de la nature est donc une raison importante. Et ensuite, une autre raison, c'est le plaisir de la nature d'y être. Le gibier est important pour sa propre nourriture et beaucoup disent vouloir chasser avec leur chien par plaisir.
Des arguments de protection de la nature souvent débattus, réfutés par les anti-chasses. Mais élément nouveau, ces arguments pro-chasse ne sont plus désormais véhiculés que par des magazines vieillots ou des chasseurs hommes âgés au ventre rond. Les jeunes chasseurs comme Shanna Reis s'emparent d'Internet et des réseaux sociaux pour promouvoir et défendre leur activité. Facebook, YouTube ou Instagram regorgent de comptes pour expliquer la chasse et la mettre en valeur.
J'essaie souvent de parler de la chasse. J'essaie d'expliquer aux gens ce que nous faisons ici parce qu'il est très important qu'en tant que chasseurs, que nous ne nous enfermions pas dans une bulle sans rien dire, que nous expliquions aux gens ce que nous faisons et pourquoi nous le faisons. C'est la seule façon de casser les préjugés et de faciliter la compréhension.
Et casser les préjugés, changer l'image de la chasse en renouvelant aussi les membres des associations de chasse directement. Avec des femmes comme Shanna, notamment, elle n'était que 7% des effectifs fin 2019, mais représente désormais un quart des nouveaux et nouvelles inscrites pour les formations et examens de permis de chasse. Vue d'Allemagne, ça se termine pour aujourd'hui. Je vous remercie de nous avoir suivis. Merci aussi à Christophe Marx et Camille Lefebvre pour leurs interviews, à la professeure Stéphanie Zenley également, et Sandrine Blanchard de la rédaction de la Deutsche Welle. Je vous renvoie au site internet de la DW justement et aux applications pour le podcast de Vue d'Allemagne. Et puis vous donne rendez-vous avec Anne Letouzé pour un nouveau numéro la semaine prochaine. D'ici là, alles Gute, portez-vous bien et à très bientôt. Tschüss.